Volubile, oh ça sent bon.
Volubile 2009, toujours. Syrah et 20% de Carignan.
D'accord. C'est bon ça? Ça c'est éclatant en revanche en bouche.
Ouais, mais la Syrah c'est le vin.
Voilà. Fraise et cassis. C'est bon.
Merci.
C'est vachement bon.
Non, je parlais en termes de pourcentage de. Il y en a moins.
Voilà, mais ça avec
effectivement, en nature. Voilà. Sachant que la plupart sont en bio, présence de viticulteurs en bio.
Sans le 2, Radio Cani, la plus rebelle des radios.
Reportage méga compicole.
Daniel, donc je co-organise et je revends du vin.
Isabelle Frère, le Scarabée, dans le Roussillon.
Pierre Bauger, je suis revenu dans le Puy-de-Dôme faire du vin.
Thierry Alexandre, vigneron à Saint-Jean-de-Muzol en Ardèche. Voilà, Saint-Joseph.
Pour le dire très rapidement, c'est des vignons bio, des sols travaillés et le moins d'intervention, notamment chimique, pas d'intervention chimique, pardon, et le moins d'intervention tout court sur les vins, sur la vinification, sur l'aspect vinification, voilà. À vue de nez, je sais pas, c'est 200, 300 vignerons en France, quoi, je sais pas. C'est rien, c'est ridicule, c'est moins que le bio, donc déjà le bio c'est pas grand chose. Il y en a quand même beaucoup qui travaillent comme ça et qui et ça se sait pas vraiment. On n'est pas obligé non plus de le mettre en avant, enfin beaucoup ne le mettent pas en avant d'ailleurs, même très peu le mettent en avant. C'est nous qui le mettons en avant souvent, nous les revendeurs, ou les cavistes, ou les restaurateurs. C'est des gens qu'on connaît quand même bien, qu'on aime beaucoup, non seulement parce qu'on les boit et on les fréquente, mais ils sont assez peu présents sur Lyon. C'est assez peu, il y a des cavistes qui les font, c'est très bien d'ailleurs. Mais en fait, ils sont assez peu présents dans les restaurants, des choses comme ça. Donc voilà, ça valait le coup de les faire venir.
Thierry Alexandre, vigneron à Saint-Jean-de-Muzol en Ardèche. Voilà, Saint-Joseph. Donc en blanc et en rouge. Voilà, un joli petit domaine d'un hectare. Un hectare, c'est plutôt petit pour en vivre. C'est un petit peu difficile, surtout quand on essaie d'être au plus propre, avec des petits rendements, 20-30 hectos. 20-30 hectos, ça fait 2000 litres de vin. Donc c'est vrai qu'à hauteur de la France, c'est peu. Et de l'export, on n'en parle pas.
Bon, je me suis mis dans une situation un peu extrême pour plein de choses, pour pas beaucoup de place, pas beaucoup de trésorerie, envie de faire les choses le plus naturellement propre possible, des choses un peu extrêmes. Il y a un hectare de gamay en deux parcelles et un demi-hectare de chardonnay. Donc là, il y a des chardonnays 2007 à goûter qui sont toujours en tonneaux, qui ont été ramassés le 28 novembre 2007. Avec de la pourriture noble, du passerillage, et puis qui avait gelé un peu sur souche, et dégelé après, je les ai ramassés 15 jours après. Il y a des chardonnays 2009, mais j'ai l'air de les avoir oubliés. En tout cas, je ne les retrouve pas. Il y a des rouges 2009 de gamay, et après, c'est des vignes. Bon, il y a un espèce de truc bizarre que j'appelle ça du vin à la noix. 2001, c'est un tonneau un peu bizarre de gamay qui était parti un peu en vrille, dans lequel j'ai mis des quarts de noix fraîches. Et après, il y a des vignes que moi j'ai plantées, parce qu'à terme, les vignes en location, j'abandonne. On a acheté une maison encore plus au sud, en deux vallées successivement plus au sud, où je replante d'anciens paillas. C'est des terrasses chez nous, on appelle ça comme ça, les terrasses en pierre sèche des paillas. Et aujourd'hui, il y a 1,40 hectare de planté. Et voilà. Et après, il faut venir nous voir.
En plus, c'est une belle minéralité qui pousse derrière, comme ça, qui supporte le tout.
C'est des arènes granitiques.
Ouais. D'accord. Okay. Ah oui, t'as que ça?
Ouais, j'ai que ça. Enfin, jusqu'à cette année, j'avais que ça. D'accord. Et là, cette année, j'ai récupéré les vignes de mon oncle.
D'accord.
Parce qu'il ne peut plus les... Et donc, du coup, il me les met sur le dos. Il met 3 hectares de plus. J'avais 6.
D'accord.
Et maintenant j'en ai 9. Et ces 3 hectares-là, ils sont sur des gneiss. Ils sont plus près de la montagne.
Ils sont sur des ?
Sur des gneiss. C'est un mélange détritique de schiste et de granit.
D'accord.
À cet endroit-là. Okay. Voilà. Donc il y a plus de schiste, c'est vachement intéressant. C'est
d'accord.
Des sols qui sont vraiment chouettes. Okay. Par contre, c'est des vignes qui sont dans un état.
Bah, voilà. Tu vas les rattraper petit à petit.
Voilà, voilà.
C'est 2013 sera un grand millésime.
Ouais. Ouais, ouais.
Vin naturel, pour moi, c'est avant tout être au plus propre déjà dans la vigne. Donc pas de désherbant. On travaille les sols, hein, deux, trois coups de treuil. Par saison, on emploie en produits phyto plutôt soufre et cuivre. Donc des produits de contact qui ne rentrent pas dans la plante. L'idée, c'est d'être au plus propre dès le départ pour avoir une belle vendange bien saine. Ensuite, on travaille en vinification en levure indigène avec un minimum de soufre. Voilà, pour ne pas dire sur certaines cuvées, si ça ne nécessite pas de soufre, il n'y en a pas.
Même si on ne sent pas à proprement parler le soufre, même si des fois ça arrive, il y a l'effet sulfite qui a vraiment un effet gustatif, quoi. Ça resserre quand même les vins. Voilà. Donc on n'a pas le même effet en bouche, quoi. Le même vin sulfité et non sulfité, c'est quand même pas le même résultat gustatif, quoi.
Des vins authentiques où on sent le raisin et on a plaisir à les boire, on a pas mal à la tête, on peut en boire un peu plus que d'habitude. Et... voilà, le soufre étant présent à des doses infimes, c'est des vins de où les caractéristiques du vin s'expriment pleinement. On retrouve vraiment des goûts différents pour moi.
Normalement, quand on a la viticulture en bio, on a un cahier des charges à la vinification qui est un cahier des charges classique, comme tout autre vinificateur. Voilà. Donc ce qui manquerait, ce serait de poursuivre simplement la logique qu'on a à la terre, jusque dans la cave et jusque dans la bouteille. Quoi. Prendre un truc bien caricatural, histoire de me faire bien taper dessus. Le pire du pire, ça serait effectivement, je sais pas moi, thermovinification, donc les moûts montés à 70 degrés, on tue tout en termes de vie. Ensuite, on relevure, parce que forcément, il n'y a plus de levure, donc voilà, on levure avec des levures exogènes, du coup. Puis après, je sais pas, on peut corriger l'acidité, on peut corriger la couleur, on peut corriger les tanins, on peut. Bon, c'est clair que là, il n'y a plus de terroir, quoi, il n'y a plus rien, quoi. On maîtrise tout aromatiquement, quasiment. Donc, bon, le terroir, on essaye de reproduire une idée du terroir. Voilà. Mais un terroir, ça s'exprime chaque année. Et pas tout à fait de la même façon. Donc, voilà.
Le fait de travailler avec des levures sélectionnées qui sont plus ou moins toutes les mêmes, hein, puisque les marchands de levures, même s'il y a une grosse gamme, c'est pour moi des goûts un petit peu trop standardisés pour se répéter, mais qui décrivent bien les vins qu'on a tendance à boire de la cave coopérative à de nombreux vignerons. Bon, après, ceci dit, il en faut pour tout le monde, mais on tient aussi à se démarquer de cette manière, c'est d'avoir des vins authentiques et de vinifier au plus près du naturel, voilà.
On refait un peu ce qui se faisait avant, bon, avec... il y a 50 ans, on n'avait pas forcément tous ces produits-là, mais c'est un long... Enfin, c'est une longue truc à expliquer, j'ai pas les mots pour l'expliquer rapidement, là, mais... moi, j'appelle ça usurpation, voilà. Là, AOC, c'est pas un gage de qualité. C'est pas parce que c'est AOC et qu'on croit que c'est le haut de la gamme, c'est pas ça. On est en vin de table parce que, ou comme moi, on l'a choisi et qu'on n'en a rien à foutre du reste. Après, je comprends complètement les gens qui, au sein d'une AOC, se battent pour que eux aient droit à avoir cette appellation-là parce qu'ils font propre et parce qu'ils n'utilisent pas tout un tas d'arsenal à la con, d'additifs énologiques, ou dans les vignes ou quoi, du désherbant, et que leurs vignes sont propres, qu'on ne voit pas traîner du plastique partout ou quoi. On met pas des bouts d'épuration ou je sais pas quoi d'autre. Après, on peut se tromper sur la marchandise qu'on nous vend, mais bon, enfin voilà, faut arrêter de dire que c'est toujours la faute aux autres, quoi. Mais Moi, je m'en fous. Enfin, dire. Mais dans les fruits, c'est pareil. Et puis, la viticulture, c'est quand même le revenu des viticulteurs, des vignerons, c'était quand même un des revenus les plus élevés au niveau agricole. Et bien, quand on est riche, on peut se permettre d'acheter plus de saloperies, entre guillemets. Je crois qu'il y a d'autres logiques à adopter que celle des OGM, que celle de la chimie, que d'écouter un peu plus le vivant. Après, c'est pas parce qu'un produit est nature ou naturel qu'il n'est pas nocif. Hein. Une amanite phalloïde ou même le soleil, si on reste à Walpé tout l'été en plein soleil, on va prendre un méchant cancer, quoi, voilà. Et le vin, même qu'il soit nature, moi je dis pas vin naturel, parce que pour moi c'est une connotation, vin naturel qui se fait tout seul, et on est derrière quand même. La vigne à la base c'est une liane et on la taille, donc déjà c'est pas naturel. Mais faut quand même, voilà, bon après on peut jouer sur les mots, mais enfin voilà quoi. Mais quand on vous parle d'enherbement naturel maîtrisé par du désherbant, on se branle la tête, quoi. Faut arrêter, on se déculpabilise. Enfin. Donc moi, je suis en colère contre ça, quoi. Je veux pas vivre à quatre pattes dans une grotte, mais même si j'ai envie de travailler avec un animal et de remonter des murs en pierre sèche, et de toute façon, enfin, j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire, et voilà. Mais je pense que... Il y a des choses comme on va payer des gens, je ne sais pas si ça se fait encore, mais la jachère, on va payer des gens pour ne pas cultiver leurs terres, ici, en Europe, en France, et au Brésil, on leur fout un coup de pied au cul pour que les gens de chez eux s'en aillent, parce qu'il y a de l'or ou de l'uranium ou je ne sais pas quoi dessus, alors c'est complètement débile. Et moi, j'ai refusé les subventions, je ne veux pas de subventions, je n'ai pas voulu la dotation jeune agriculteur. Voilà quoi. Après, chaque cas est particulier, je dis ça, mais j'avais un petit peu de sous de côté, quoi. Mais bon, au début, je dormais dans ma grange, machin, mais voilà, quoi.
Je pense que du coup, on doit un peu pérenniser son investissement et donc être beaucoup plus sûr du retour sur investissement. Enfin, voilà, tout ce vocabulaire. Et c'est vrai qu'il y a des vraies prises de risques financières de faire du vin comme ça, quoi. Je connais beaucoup de vignerons en nature, quand ils ont commencé, qui ont jeté pas mal de vin, quoi. Donc, l'impact économique, il devait être assez conséquent, je pense. Après, la réalité économique, elle est très compliquée. Les gens sont aussi mariés. Ils ont peut-être une compagne ou un compagnon qui a un boulot plus stable. Et voilà. Mais c'est une vraie prise de risque quand même. À surface égale, on n'a vraiment pas le même rendement, quoi.
Alors j'essaie d'être au plus proche du consommateur, donc en essayant de faire quelques salons comme celui d'aujourd'hui, salon des débouchés, valoriser mes vins au mieux, en croisant les gens, leur faisant goûter. Il me semble qu'il y a un peu plus de rapports humains qui m'intéressent.
Ça va, il y a du monde, c'est agréable, tout le monde a l'air bien content, donc bon, déjà c'est bien, quoi. Rien que ça, c'est une réussite, quoi. Voilà.
J'ai 44 ans et j'ai un regret principal. Après, on peut en dire regret de ne pas avoir les petits-enfants de ses petits-enfants ou quoi, mais bon, on ne va pas faire une liste. Mais un de mes regrets sera de ne pas voir les vignes que j'ai plantées, de ne pas voir ces vignes-là à 80 ou 90 ans d'âge. Voilà. Je voudrais bien les voir à cet âge-là et voir le vin qu'elles feront à cet âge-là. Ouais, mais qui sait.
Meus senhores, vou lhes apresentar a figura do homem popular. Esse tipo idiota e muquirana é um bicho que imita a raça humana. Exagera e desatina, pois quando o pobre tem no seu repasto o direito à escola e proteína, o seu cérebro cresce qual um astro e começa a nascer pra todo lado Jesus Cristo e muito Fidel Castro. África, Aramuê e Favela, América de verme, que Deus ará e oculta a tua pele.
cirurgia é na merda que eles vão parar, ou na peste maleta e dropsia. Mas o direito na sua amplitude serve o grande e o pequeno também. Além disso, quem chega se a virtude e da lei se aproxime se convém. Tá mostrando ao patrão solicitude por querer o que dele advém. África, Aramuê e favela, América de verme, que Deus ará, Yoko, neta, tua pé, irará.